Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez seulement. Et merci d'être avec nous si vous êtes là depuis le début. À suivre, Bruno Donnet et sa rubrique Télescopage, miroir grossissant braqué sur nos écrans. Notre invité, c'est l'humoriste et comédienne Camille Chamou. Parler de son spectacle Le Temps de Vivre, ne vous fiez pas au titre. Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame. Tout ce qui est arrivé à une célébrité avant sa célébrité. Et puis pour clore l'émission, ce sera Marc-Antoine Lebray et ses voix. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel, ça va ?
Ça va très bien. Guillaume Benesch, ça va ?
Oui, super.
Je vous salue. Philippe. Bruno Donnet, bonjour.
Bonjour Philippe.
Tout le monde va bien, on est lundi et tous les jours, Bruno, vous analysez ici les comportements médiatiques. Et hier soir, vous dites avoir été frappé par la manière dont les 20 heures de TF1 et de France 2 ont été relayées, ou plutôt ont relayé très différemment l'interview que Jean-Yves Le Drian a donnée pour évoquer la crise dont parlait Émilie, crise des sous-marins australiens.
Oui Philippe, alors le temps 1 de notre grosse affaire du jour s'est déroulé samedi dans le 20h de France 2. Jean-Yves Le Drian en était l'invité et il était tellement remonté contre les États-Unis qu'il a décidé d'envoyer le langage diplomatique dont il est pourtant l'un des grands élateurs se faire cuire le sous-marin chez les kangourous.
Il y a eu mensonge. Il y a eu duplicité.
Il a appelé un chat et une couillonnade, un problème.
Il y a eu rupture majeure de confiance. Mmh. Il y a eu mépris.
Voilà, alors le mépris, le mensonge ou encore la duplicité sont des termes qui forment un vocabulaire absolument sans précédent dans la bouche du plus haut représentant de la diplomatie française. Du coup, les médias ont été très intéressés par cette séquence-là qui ne sonnait vraiment pas comme celle que l'on a coutume d'entendre.
Donc ça ne va pas entre nous. Ça ne va pas du tout.
Alors, eh bien alors, ils ont choisi hier de la relayer et de la commenter. Et c'est là, Philippe, qu'on en arrive au temps 2 de notre sujet d'aujourd'hui. Car vous allez voir que le télescopage entre le 20h de TF1 et celui de France 2 dessine un contraste extrêmement savoureux. À ma gauche, toute heureuse d'avoir été la puissance invitante, France 2 avait choisi hier soir de bien nous faire remarquer que c'est chez elle que l'événement s'est déroulé.
Hier soir sur ce plateau, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a revendiqué avec des mots forts la fin de l'innocence diplomatique française et européenne après l'épisode de la rupture des contrats de sous-marins.
Laurent Delahousse l'a dit et le correspondant de la chaîne aux États-Unis a bien souligné la portée médiatique colossale de la séquence.
L'affaire est évoquée jusque dans les chaînes de télévision américaines.
Mazette, avant de rediffuser dans son sujet le passage le plus fort de l'interview de la veille en faisant apparaître à l'écran et avec force effet sonore, les mots les plus durs qu'il avait même choisi d'inscrire par-dessus l'image de Jean-Yves Le Drian avec de l'encre rouge.
Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous. Ça ne va pas du tout.
Voilà donc pour France 2 qui a bien bombé le torse, merci. À ma droite, à présent, sur TF1, on avait choisi une toute autre mise en forme. Car si le son était à peu près le même que sur la 2, encore que, l'image était radicalement différente. Jugez plutôt. Anne-Claire Coudray a certes relayé l'information, elle a elle aussi pointé la tonalité fort peu diplomatique des propos de Jean-Yves Le Drian.
La colère de Paris, avec des mots très durs du ministre des Affaires étrangères qui parle de mensonges.
Mais alors qu'elle aurait parfaitement pu diffuser un extrait de l'interview du ministre et nous le montrer sur le plateau de France 2, TF1 a opté pour une toute autre solution. Laquelle ? Eh bien, elle a tout simplement décidé de recourir à un simple verbatim qui, à l'antenne, a donné ceci.
Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu rupture majeure de confiance, il y a eu mépris. Donc ça ne va pas entre nous.
Voilà, les propos étaient donc retranscrits tout simplement à l'écran et en tout petit, à la fin, apparaissait la mention 18 septembre 2021 France 2. Alors je précise, Philippe, que ça n'aurait pas coûté plus cher à TF1 de diffuser l'extrait brut, au sens propre du terme, puisque vous savez qu'au nom de ce qu'on appelle le droit de citation, ouais, les chaînes peuvent reprendre tout à fait gratuitement des séquences vues chez leurs concurrentes dans un délai de 24 heures. Seulement voilà, hier soir, TF1 n'avait manifestement pas la plus petite envie de faire de la pub à sa rivale, car oui, Philippe, les relations entre les chaînes, c'est aussi une question de diplomatie. La guerre y est froide et elle se déroule en sous-marin. Mais avec un bon périscope, on la voit parfaitement bien remonter à la surface.
Bien vu. Merci Bruno Donnet. À demain. Stéphanie Loire, le programme de votre indispensable d'aujourd'hui, aucun rapport avec les sous-marins ?
Non, bah, ouais. on pourra en trouver un finalement, parce qu'il y a quand même eu la vie aquatique chez Wes Anderson. Ça va être une rencontre entre le cinéma et la musique, celle de Jarvis Cocker et le cinéma de Wes Anderson.
Guillaume Benesch, même question.
Alors, on va parler d'une question un peu taboue, vous savez, celle des enfants, de comment on fait les bébés. Ah oui. J'ai trouvé un livre qui permet de résoudre toutes ces questions un peu taboues en famille.
Dans un instant, c'est la comédienne Camille Chamou, ça va l'intéresser ça. Elle va nous parler de son spectacle Le Temps de Vivre. Il est aussi question de l'éducation des enfants, donc c'est pile pour elle. Mais d'abord, musique sur Europe 1, c'est Tom Greenman.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Camille Chamou.
Bonjour.
Faut-il vous présenter, comédienne, on vous avait découverte sur Canal dans l'édition spéciale, vous avez fait 3 one-man shows, Camille Attaque et surtout Né sous Giscard et l'esprit de contradiction, bientôt le 4e, on va en parler. Au cinéma, pendant que je raconte ça, vous pouvez mettre votre bonnette s'il vous plaît. Au cinéma, Les Gazelles ou encore Largué avec Miu Miu et Camille Cotin. Également La Flamme, la série de Canal+, signée Jonathan Cohen, parodie du Bachelor. Et là, votre actualité, c'est un nouveau one-man show, s'appelle Le Temps de Vivre, un exposé sur la finitude en 70 minutes pile, on dirait une conférence, au théâtre du Petit Saint-Martin. C'est du mercredi au samedi à 20h30. C'est quoi l'idée de ce spectacle? Vous avez souri au sous-titre et moi aussi, un exposé sur la finitude en 70 minutes pile. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que, en réalité, j'avais envie de faire un spectacle, bon bah humoristique, hein, puisque c'est ma veine, ma passion, mon karma,
mon sacerdoce,
ma mission, mon sacerdoce, un spectacle humoristique sur ce sujet moins humoristique, qui est le fait que tout a une fin, et particulièrement nous-mêmes,
ouais.
Et cette sensation ayant été prodigieusement accrue en ce qui me concerne dans ce que nous avons traversé dans l'année et demie qui précède, j'ai peaufiné, j'avais commencé à écrire ce spectacle avant, réfléchir sur le temps, la finitude, le minuteur et le chronomètre, qui sont un peu mes guides, depuis que j'ai des enfants. Et puis là, pendant les confinements et tout ça, cette sensation de temps suspendu et puis en même temps de vortex. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit « Oh, un temps suspendu !» On peut explorer ce temps et puis soudain, on a l'impression que tout est absorbé comme dans un trou noir. Donc toutes ces réflexions-là, j'ai voulu les mettre dans ce spectacle avec une contrainte, d'où le sous-titre que vous avez lu. La contrainte étant que le spectacle est chronométré, il est minuté. C'est une promesse que je fais aux gens. Au bout d'1h15, vous êtes dans la rue et vous êtes dehors, vous êtes sortis.
Le journal Le Monde écrit « Un spectacle qui agit comme un baume en ces temps troubles. » Le mot « temps » prend tout son sens, puisque vous faites la différence, vous l'avez dit, entre le minuteur et le chronomètre. J'avais jamais vu les choses sous cet angle, et une fois que je vous ai entendu, je me suis dit « c'est lumineux, racontez la différence.
Bah, » Le chronomètre, c'est le temps que te prennent les choses, c'est le temps que ça va te prendre, donc c'est le temps de la compétition, de la rentabilité, où on est speed. Le minuteur, c'est le temps qu'il te reste. Donc à la fois, il y a quelque chose d'un petit peu tragique, mais c'est le principe de la vie. Hein.
Ouais.
C'est le temps qu'il te reste. Qu'est-ce que tu en fais? Quand tu sais que ça va se terminer, qu'est-ce que tu en fais?
Alors, vous avez dit, c'est passé deux choses dans votre vie. Il y a le confinement, comme tout le monde, et puis vous avez eu un enfant, et le minuteur est votre enfant raconté.
Oui, j'ai même eu deux enfants, mais le premier a un vrai problème avec le temps. Il a un problème avec le fait que quand on change d'activité, il faut le prévenir très à l'avance. Beaucoup d'enfants ont ce problème, mais le mien, c'est carrément pathologique. Donc, effectivement, quand vous voulez interrompre parce qu'il est en train de jouer et que vous voulez aller au zoo, pourtant, vous lui proposez un truc sympa,
ouais.
Mais en fait, il faut faire on part dans 25 minutes, 20, 15, 10, 5. C'est un lancement de fusée aérienne à chaque changement d'activité.
Et là, comme ça, il est plus heureux, il en profite. Vous racontez un truc formidable, c'est quand on attend un livreur, c'est arrivé à plein de gens. Quand bien même sait-on qu'il arrive dans 17 minutes, ça nous gâche ces 17 minutes puisqu'on y pense.
Oui, parce que comme toute notre vie est chronométrée, et vous à la radio, je ne vous en parle même pas, comme toute notre vie est minutée chronométrée, en fait, normalement, on a des horizons d'attente. Donc, ok, dans 15 minutes, c'est fini, dans 20 minutes, je dois être là, dans 35 minutes, il faut aller chercher le gosse. Mais on ne profite jamais du temps, effectivement, qui nous est imparti. Et effectivement, moi, j'ai ce problème avec la livraison de nourriture, par exemple. Quand je sais que mon plat va arriver, je n'arrive plus à me concentrer parce que je suis focus s'ils vont être à l'heure ou pas. Et en plus de ça, je me dis, oulala, je vais manger dans 17 minutes, donc j'ai de plus en plus faim. Et j'arrive plus à me concentrer.
Alors, qu'est-ce que ça donne, Camille Chamou, sur scène? On va entendre un extrait. Vous penchez sur le sort de vos enfants, le moment où ils vont entrer dans la vraie vie.
Moi, d'ailleurs, je me dis souvent, c'est pas leur rendre service de les bichonner comme ça, les petits, parce que quand ils vont débarquer un jour dans la grande histoire de la vie normale, ils vont être un peu hallucinés en mode « Mais où sont les tartines de Nutella ?» Ah, bah quand même. Merci. Ah, mais c'est de la merde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La vie, mon pote. La vie.
Alors, pour vous, Nutella, il faut raconter ce que vous avez fait pour de vrai. Quand le confinement vous est tombé dessus, vous êtes parti au supermarché, mais pas pour acheter de la nourriture.
Ah oui, tout à fait. En fait, on est parti. Je me suis retrouvée confinée avec une amie. Et on avait des enfants du même âge qui étaient en moyenne section de maternelle.
C'est pas une amie.
Bah oui,
c'est votre amie Camille, il faut le raconter.
Ouais, c'est ma grande amie.
Elle a co-écrit le texte avec vous.
Complètement, complètement. Non, c'est mon amie Camille.
C'est une amie.
Oui, oui, c'est vrai, c'est, vrai, c'est Camille Cotin. Et donc, du coup, on s'est retrouvés ensemble. Et donc, on était en panique le premier jour. On s'est dit, mon Dieu, mais comment on va faire avec les gosses et tout. On est parti au Leclerc. Pardon, faut pas faire de pub à l'antenne. On est parti au supermarché, à l'hypermarché.
Ouais,
et là, on a, dévalisé. Voilà, ça y était, bon. Et on a dévalisé le rayon éducation. Alors que tout le monde, en vrai, au troisième jour du confinement, faisait la queue pour la farine et les œufs. Hein. Mm-hmm. Et nous, on était au rayon éducation, on était là, prends ça, achète ça aussi. Parce que comme ça, on aura de quoi leur faire faire des activités toute la journée, des activités, et les enfants seront cadrés. Ouais. Et c'était notre obsession de cadrer les gosses.
Mais là, vous jouez ou vous êtes tout le temps hystérique comme ça?
Alors là,
cette énergie-là, vous la faites parce que vous êtes comédienne et que vous savez que vous avez qu'on rit.
Alors voilà, Philippe, on est exactement sur ce problème. Non, je me réveille le matin et je parle comme ça. Mais en même temps, mon mec me regarde parfois en me disant, tu sais que là, il n'y a pas de public. Et je suis là, mais non, je te jure que c'est naturel. Arrête. Mais même mes enfants me font ça. Mais maman, il n'y a personne là. Pourquoi tu... Bon.
Camille Chamou est avec nous jusqu'à 11h. On a encore plein de questions. On est ravis. D'ailleurs, son portrait d'avant la célébrité, donc ça se trouve, elle était déjà comme ça. C'est Lisa Marie Marquez qui va nous le dire.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
Le temps de vivre, un exposé sur la finitude en 70 minutes pile. Ici à la radio, on mesure tout le temps le temps qui nous reste, le temps qu'on prend. Nous sommes avec Camille Chamou, c'est elle qui sera sur la scène du Théâtre Petit Saint-Martin. Et je vous présente Lisa Marie Marquez, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Lisa dresse un portrait inédit que vous avez vous-même avancé, donc vous annoncé, donc vous savez de quoi il s'agit. C'est le portrait de notre invité avant qu'il soit connu.
Et oui, bonjour Camille Chamou.
Bonjour.
Vous êtes comédienne, humoriste, scénariste, metteuse en scène, mais comment en êtes-vous arrivé là?
Oui.
On va rembobiner et revenir ensemble sur tout ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Vous êtes née, vous avez grandi à Paris. Camille Chamou, enfant, vous n'êtes pas du tout timide. Vous êtes même très bavarde. Vous parlez à tout le monde, tout le temps, ce qui parfois fait peur à votre maman. Par exemple, dans le bus, vous faites des exercices de lecture aux gens en face de vous.
Non.
Tout à fait.
Ça consiste en quoi, des exercices de lecture aux gens?
Mais en fait, c'est parce que je prenais le bus toute seule. C'était une autre époque. Hein. Donc, à partir de 7 ans, on prenait le bus tout seul. Et en fait, je sais que je m'entraînais à lire le plus vite possible des passages pour impressionner la maîtresse. Et je faisais ça à deux dames, notamment, que je voyais tous les matins dans le bus. Et un jour, ma mère m'a accompagnée à l'arrêt de bus et elles ont expliqué à ma mère « Ah oui, votre fille, elle nous fait la lecture tous les matins, elle nous force à écouter. Elle nous convoque, en fait. »
Petite, vous ne vous considérez pas comme une enfant, vous jouez à l'enfant et surtout, vous observez les gens. Un vice de l'observation qui commence par des imitations d'abord toute seule dans votre chambre. Et il y a une particularité à votre enfance, c'est que vous n'avez pas de télé à la maison. Mmh. Et je crois que vous n'avez par exemple jamais vu Les Bronzés alors que le film a été diffusé 3000 fois à la télévision.
Non mais attendez, on n'a pas le droit de le dire, c'est mon tabou. J'ai pas vu Les Bronzés, c'est un tabou. Non mais le jour où j'ai dit ça à mon mec, il est tombé de sa chaise. Il était là genre, mais tu n'es pas un être humain, enfin tu n'avais vu Les Bronzés. C'est anormal, enfin sort de cette pièce. Oui, j'ai des petites lacunes.
Camille Chamou, vous êtes une littéraire, vous lisez très tôt et vous découvrez le théâtre avec la pièce L'Avare avec Michel Serrault. C'est à la fois un choc et une révélation, vous découvrez la liberté d'un comédien sur scène. L'Avare, cette pièce a une importance particulière pour vous, puisqu'à l'âge de 7 ans, avec votre frère, vous jouez une scène que vous connaissez par cœur un nombre incalculable de fois à votre grand-mère qui s'est cassé le poignet.
Oui, tout à fait. En fait, elle s'était fait très 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 mal. Donc ma mère m'avait dit oh, bah, fais-lui la scène que vous avez apprise avec Laurent et tout. Et on lui joue une fois et comme elle rigole et que tout le monde nous applaudit, moi je suis grisée, donc je repars au début de la scène. Donc mon frère me fait ok, bon. Donc on rejoue la scène. Et puis à la fin de la scène, je fais non mais attendez, pardon, c'est génial. Et je repars au début de la scène. Et au bout de 4 fois, ils font stop, arrêtez cette personne. Oui, je l'ai joué en boucle.
Ouais.
Camille Chamou, du côté de votre scolarité, tout se passe bien. Vous êtes une très bonne élève. Comme vous aimez la littérature, vous faites un bac littéraire, puis Hippocagne. Mais vous ne réussissez pas le concours de Normale Sup. Et même si ça fait un peu peur à vos parents, vous décidez de vous orienter vers le théâtre. Vous vous formez au conservatoire du 7e arrondissement. Vous prenez des cours de théâtre, vous prenez des cours au théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées et en sortant de la formation, vous intégrez la troupe du théâtre Sylvia Montfort.
Oui,
là, ça va vite. Hein.
Et là, vous jouez des classiques sous le regard du metteur en scène Régis Santon.
Oui.
Et justement, ce qui vous plaît, c'est la mise en scène. Vous vous rêvez Patrice Chéreau, le grand metteur en scène de théâtre et réalisateur que vous admirez tant. Camille Chamoux, après avoir travaillé au sein de plusieurs compagnies, vous décidez de monter la vôtre, baptisée L'œil du guetteur. Oui. Vous mettez en scène des textes contemporains.
Tout à fait.
Et puis un jour, vous commencez à écrire sur les névroses d'une jeune femme citadine et trentenaire. Votre copine et future metteuse en scène, Pauline Bureau, vous pousse à aller faire des scènes ouvertes. Ce que vous faites, il y a l'embarras du choix à Paris. Et là, vous découvrez le super pouvoir de faire rire.
Oui. Et là, vous retrouvez le plaisir de faire l'avare devant la grand-mère.
Oui, exactement. Mais vraiment, la première fois où j'ai fait un pauvre sketch devant 30 personnes dans une scène ouverte, je me suis dit, ah oui, dommage.
C'était quoi le premier sketch ?
Le premier sketch, c'était une grande paranoïaque qui se retournait tout le temps, enfin, qui agressait les gens dès qu'ils la regardaient. Et ça s'appelait Le Regard, d'ailleurs. Ouais. Dès que quelqu'un te dit un truc, le regard qui dit direct, je m'en souviens de ce truc, et c'était vraiment un sketch très hystérique et tout, mais il y avait une petite base.
Vous écrivez alors votre premier spectacle, votre premier seul en scène, Camille attaque, puis le second, Né sous Giscard, avec une affiche qui attire l'œil. Vous êtes en maillot de bain, cocarde sur le sein, tiare sur la tête, et grâce à ce spectacle, vous dînez avec Valérie Giscard d'Estaing.
Exactement. Bah, il s'est pointé en fait.
Vous étiez prévenu.
Son assistante, sa secrétaire, a appelé une semaine plus tôt en disant est-ce qu'on peut prendre une place pour Valérie Giscard d'Estaing. On a eu une descente d'organes. Hein.
Ouais.
On était vraiment.
Et alors, est-ce qu'il riait ?
Et il a vraiment hyper bien réagi. Il a pas ri de manière sonore, mais il a souri pendant tout le spectacle. Il est venu avec sa fille, Hyacinthe. Je me souviens bien, je crois que c'est ça, Hyacinthe. Et après, il m'a proposé d'aller dîner. D'abord, il a fait des selfies, c'était une rockstar à la sortie, il était trop content. Il y avait toutes les filles de ma génération à la sortie qui lui demandaient des selfies, donc il était mort de rire. Et il s'est prêté au jeu des selfies de manière très amusante, et après on a été dîner ensemble.
Wow. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Il m'a raconté des tonnes. Moi, j'étais hyper curieuse, hein, donc j'avais beaucoup, beaucoup d'anecdotes. Je voulais je voulais qu'il raconte plein de choses. Simone Veil, je voulais qu'il raconte Françoise Giroud, je voulais qu'il raconte comment est-ce qu'il a intégré les femmes à son gouvernement, comment alors qu'il a cette image de, il avait cette image de patriarche. En fait, il était très, finalement, il a fait des avancées en termes de société énormes, Giscard. Et il a cette image un peu ringarde ou un peu machin, alors que vraiment, c'est un type qui a changé la société assez profondément.
Des producteurs viennent vous voir et vous demandent de travailler sur le concept de la célibatante. Oui. La célibatante, c'est la célibataire qui sait ce qu'elle veut et se bat pour réussir. Vous coécrivez alors avec Mona Achache le film Les Gazelles, dans lequel vous jouez. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Bravo.
Voilà, et maintenant, c'est la fame.
Oh, vous êtes toujours pas j'adore cette petite chanson. Ça y est, j'ai vu Les Bronzés et Les Bronzés au ski. Enfin bref, j'ai tout vu.
Les Bronzés font du ski, ouais.
Voilà, Camille, il faut quand même se mettre, elle connaît même pas le titre. Tu connais ces acteurs quand même, oui, un petit peu.
Merci beaucoup Lisa Marie. Dans un instant, notre premier indispensable, c'est Guillaume Benesch qui va nous parler d'un livre dont le titre résume tout, Corps, Amour, Sexualité. C'est un peu pour vous. Je dis ça parce que c'est dans votre spectacle. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Tu parlais tellement vite.
En compagnie de Camille Cotin qui nous raconte...
Non, Camille Chamoux.
Oui, alors justement, il y avait écrit Camille Cotin devant moi parce que Camille Cotin a aidé à écrire le spectacle de Camille Chamoux. J'étais pas très très loin, vous étiez ensemble pendant le confinement. De votre propre aveu, vous dites que vous êtes une remonteuse de morale depuis toujours.
Oui, pas de bretelle, de morale. Oui, effectivement, j'ai toujours des amis déprimés qui me demandent de les secouer un peu. Après, j'ai ce problème de pas avoir beaucoup de patience avec la déprime.
Ouais.
Donc ça commence toujours hyper gentil, et au bout de 3 minutes, je suis là, bon allez là, oh voilà. Bon, j'ai quand même une tolérance zéro à la déprime, mais je pense que je trouve bien les mots.
Enfin, et avec votre mec ?
Oui, alors lui, par contre, il peut plus me supporter quand je. Oui, il peut plus supporter. Le côté voir toujours le positif des choses, il trouve ça exaspérant. Il me dit, mais laisse-nous déprimer, en fait. Laisse-nous voir l'aspect parfois désenchantant de l'existence, en fait. Et moi, je ne peux pas. Je suis obligée de secouer les gens qui m'entourent.
Il faut raconter la surprise, je ne sais pas si elle est vraie, j'ai pas envie de le savoir, que vous avez faite à votre mec, l'emmener à Varsovie.
J'ai voulu lui faire une surprise et je l'ai emmené à Varsovie. Et quand on est arrivé en Pologne, en novembre, sous la pluie, pour ses seules vacances de l'année, j'ai senti qu'il n'était pas guilleré. Donc j'ai voulu montrer un petit peu d'enthousiasme, et à un moment donné, on arrive comme ça sur une grande artère principale, et je lui dis, oh, mais chérie, non mais regarde, en fait, tu te souviens pas ? À la fin du Pianiste, quand Adrien Brody erre squelettique sous la neige dans Varsovie déserte au milieu des ruines. Eh ben, c'est là ! Génial, non ? Et là, il m'a pris par les épaules, assez fermement, je dois dire, et il m'a dit, Camille, en vacances, personne n'a envie d'être dans le pianiste. Les gens veulent être dans les bronzés.
Que vous n'avez pas vu. Est-ce voilà. que ça le fait rire, votre mec, d'être un sujet d'hilarité, d'un sujet de blague ?
La première fois qu'il a vu le spectacle, il m'a dit « Ah d'accord, donc ouais, le portrait de moi est quand même assez radical. Hein. » Et en fait, maintenant, il aime beaucoup. Il a revu le spectacle plusieurs ouais. fois. Mais la première fois, il m'a dit « Ah, c'est marrant, si je fais la somme de tout ce que tu dis sur moi. » Et il m'a résumé le truc et il me dit « c'est un petit peu sombre quand même, ce personnage. »
Ah, vous avez quand même dit qu'au lit, ça se passait bien.
Tout à fait.
Voilà. J'en parlerai pas si je n'avais pas un enchaînement à faire. Guillaume Benesse, bonjour.
Je bonjour, savais que Philippe. C'était pour ça.
Voilà. Vous m'avez demandé ce matin si vous pouviez me poser une question.
Oui, Philippe, comment fait-on les bébés ? Alors, pas besoin de répondre.
Non.
Que ce soit en tant que
parent, pas le temps.
Que sœur, que frère, mon cas, aucun enfant de cette planète n'a manqué d'interroger son entourage sur cette question fondatrice de l'espèce humaine. D'ailleurs, elle n'est souvent pas isolée. Pourquoi les garçons ont-ils quelque chose qui pend entre les jambes ? C'est quoi les règles ? C'est normal que deux filles puissent s'embrasser ? Bref, cette énumération s'arrêtera là, mais vous avez compris, il y en a à l'appel.
Le mot « pelle » est bien choisi. Vous comptez répondre à toutes ces questions maintenant, Guillaume ?
Alors, on pourrait passer 2 heures sur le sujet, mais non. Je laisserai le soin à Charline Vermont de s'en occuper. Pas certain que son nom vous dise quelque chose. Non. En revanche, sur Instagram, Charline est déjà une référence. Un compte, Orgasme et moi, c'est le nom, suivi par 526 000 personnes. Et une seule et unique mission, éduquer à la sexualité positive.
Alors, qu'est-ce que c'est ? Camille Chamou fait des grands yeux. Qu'est-ce que c'est la sexualité positive ?
Alors, c'est une éducation sexuelle bienveillante, sans jugement. L'idée est d'offrir de l'écoute aux enfants qui se posent des questions, allant des basiques jusqu'à l'écoute de son corps, de ses besoins, de ses envies, de la masturbation, du consentement, de l'identité de genre. Bref, traiter l'ensemble des sujets et des questions qui font aujourd'hui partie du quotidien, de notre quotidien, et ceci sans que ce soit éternellement des sujets tabous. Et moi, je m'en souviens, rien que d'entendre mes parents dire le mot capote, j'avais envie de quitter la pièce à l'époque.
Mais pareil. Donc, c'est sur un compte Instagram qu'on retrouve tout ça.
Alors,
mais
en fait, je vois, vous mais savez, pas seulement, Philippe.
Je vois.
Charline Vermont signe avec la collaboration de l'éditrice Sophie Nanteuil un formidable ouvrage chez Albin Michel, Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser. Alors, vous allez me dire, des bouquins sur la sexualité, il y en a pléthore,
ah, y a même
c'est
même
vrai.
Rayon entier.
Parce que je suis allé vérifier, en fait, en librairie, sympa, mon dimanche matin, je vous avoue, et c'est véritablement le seul livre qui traite aussi librement et pédagogiquement de ces sujets avec l'objectif d'en faire un objet familial que l'on parcourt tous ensemble. Alors, il y a des quiz, des illustrations, des espaces de dessin, il y a même c'est un endroit bien. Où les enfants peuvent dessiner
ah,
à
oui.
des endroits de leur corps qu'ils aiment, vous pouvez le voir d'ailleurs sur europe1.fr, mais ça se présente d'une façon assez originale, je vous avoue.
Non, mais il y a des tutos.
Alors, il y a
non,
pas
y a des tutos sexo, c'est pas possible.
Il y a pas de tutos sexo. Ce livre a d'ailleurs été travaillé avec des pédopsychiatres, professeurs des écoles, gynécologues. L'objectif de l'éducation sexuelle positive, c'est de créer une base solide pour la santé sexuelle des futurs adultes que seront ces enfants plus tard. Donc, discuter clairement, simplement et avec les bons mots. D'ailleurs, de nombreuses études, figurez-vous, j'ai appris ça dans ce bouquin, montrent que plus les parents parlent de sexualité avec les enfants, moins on constate de problématiques sur le long terme. Ça va des infections sexuellement transmissibles à des problèmes beaucoup plus importants.
C'est pour quel âge ?
Alors, c'est un livre dédié officiellement aux 5-12 ans avec la particularité d'être découpé en parties qui forment des étapes de lecture ou même des évolutions en fonction de l'âge. Alors par exemple, entre 3 et 5 ans, vous allez vous demander à quoi servent des testicules, tandis qu'à 10 ans, ce qu'est qu'une culotte menstruelle ou une cup, et à partir de 12 ans, ce qu'est un orgasme.
Eh ben, vous avez à peine passé les 12 ans, Guillaume, qu'est-ce que vous avez appris ?
Eh ben, figurez-vous, j'ai
il est tout
choses.
Jeune, il a 21 ans,
et je
peux
suis
dire.
Convaincu que vous apprendrez aussi plein de trucs, Philippe. Parce
il y a
que
9 ans,
là...
il avait 12 ans, ce gars.
C'est vrai, oui. C'est vrai. C'est
d'ailleurs là moi, il y a 9 ans, je travaillais, j'avais la carte de presse.
Mais c'est d'ailleurs
il y a 9 ans, elle était sur scène. Et vous, il y a 9 ans, vous aviez 12 ans.
Eh ben oui, mais figurez-vous, voilà. J'aurais bien aimé avoir un bouquin comme ça.
Voilà.
Mais ce qui fait qu'en fait, on apprend des choses assez marrantes sur ce livre. C'est là où on voit que c'est un livre de qualité. Parce que pour les plus grands, c'est une vraie mine d'or sur la compréhension de certains sujets, comme l'identité de genre aujourd'hui, la différence, le consentement. Quand on sait que ça fait que 4 ans que les livres scolaires parlent du clitoris à l'école, espérer étudier ce genre de sujet, notamment l'identité de genre aujourd'hui à l'école, c'est un peu inespéré. Donc j'espère que cette petite graine lancée à la volée féconde un jour le cerveau d'un ministre. Mais en tout cas, corps, amour et sexualité, c'est 100 questions que vos enfants vont pouvoir vous poser. C'est en librairie, c'est passionnant, c'est très très bien foutu. Et c'est chez Albin Michel.
Camille Chamou ?
Ça a l'air génial.
Bon.
Non mais pardon, j'arrive plus à être avec vous parce que je feuillette le livre. Il a l'air super. Mais
c'est oui. vraiment très très bien fait.
C'est quoi, Camille Chamou, elle va apprendre des choses.
Ouais.
Merci beaucoup. Dans un instant, notre deuxième indispensable, Stéphanie Loire, nous parle d'une association. On va parler de musique. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Blandel.
En compagnie de Camille Chamou, Le Temps de Vivre, c'est au théâtre du Petit Saint-Martin. C'est du mercredi au samedi, c'est à 20h30, si je me souviens bien. Vous êtes.
C'est à 21h.
21h, bah, ça a été changé par rapport à ce que j'avais. Bah, 21h, il faut le dire. Vous êtes fan de musique, pas plus que ça ?
Moi, j'en écoute pas énormément, mais mon mec écoute de la musique en permanence. Mais vas-y, je t'écoute.
Il serait pas réalisateur, votre mec ?
Si.
Et bien, justement, rencontre aujourd'hui avec vous, Stéphanie Loire, entre la musique et le cinéma.
Bonjour à tous, bonjour Camille, bonjour Philippe. Exactement, une rencontre entre la musique de Jarvis Cocker et le cinéma de Wes Anderson. Donc, une très jolie rencontre. Jarvis Cocker rend hommage à la pop française avec un album de reprise qui accompagne aussi le dernier film de Wes Anderson qui s'appelle The French Dispatch, qui a été présenté à Cannes en juillet dernier. Et qui va sortir le 22 octobre prochain. Aussi, l'album sortira de Jarvis Cocker en même temps. Alors, avant de découvrir le premier single de cet album bande-son, on va faire des présentations rapides. Jarvis Cocker, fondateur, ex-leader du groupe de Britpop Pulp, c'est ça. Jarvis Cocker navigue en solo depuis à peu près 10 ans, et quand il est tout seul, ça donne ça. I never said I was... L'album de reprise qu'il propose là s'appelle Chanson d'ennui tip top. Alors il rend hommage.
En français ?
Ouais.
Chanson d'ennui tip top, incroyable.
Chanson d'ennui tip top. Il rend hommage aux icônes de la musique pop française des années 60-70, époque à laquelle s'attache le film de Wes Anderson. Donc Françoise Hardy, Serge Gainsbourg, Brigitte Bardot, Brigitte Fontaine, Jacques Dutronc, des artistes qui sont chers au cœur du réalisateur Wes Anderson. Jarvis Cocker y interprète notamment sa version d'une chanson du très regretté Christophe, l'incontournable Aline.
Je vais.
J'adore.
Sexy, hein.
Sur le sable, sans tout visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage.
Avec le petit accent qui va bien.
Exactement.
Puis il a plu.
Le petit côté british.
Puis il a plu.
Mais sinon, c'est une reprise assez fidèle.
C'est une bonne reprise.
De la version. Un brin romancé, évidemment. On va parler du lien avec les films de
Mais
Wes
oui, parce
Anderson.
Que la musique a toujours été au cœur du cinéma de Wes Anderson.
Toujours.
Même si je ne le connais pas bien, je sais au moins ça.
Bah, toujours, en effet. Il y a toujours une cohésion entre la musique et l'histoire chez Anderson. Ses bandes-sons sont conçues méticuleusement et révèlent des pépites. Moi, j'adore celle-ci, cette reprise du musicien brésilien Seu Sorgue, du titre Space Oddity. Je prononce comme ça parce que sinon je l'écorche. Ouais. De David Bowie, c'était dans La vie aquatique. On écoute.
Grand contrôle da major town.
Elle est magnifique, ça.
Grande contrôle da Major Town. Grande contrôle. Fique certo quanto à posição do sol.
Ah, ça calme.
J'adore.
Ouais, c'est bien.
Je connais cette version, j'adore la position.
Les films d'Anderson, ils sont truffés de références à la culture française, parce qu'il en est très fan, et dans ses choix musicaux aussi, évidemment. Dans Moonrise Kingdom, en 2012, on entendait ce titre de Françoise Hardy, Le temps de l'amour. Pour ce film, Anderson avait une fois de plus confié la musique au compositeur français qui a autant d'Oscars et de Grammy sur sa cheminée que nous, de Boule à Neige du Mont-Saint-Michel. C'est bien Alexandre Desplat, bien sûr, dont je parle. Et c'est lui aussi qui signe la musique originale de The French Dispatch, pardon, le dernier Wes Anderson. Dès les premières notes de la BO, on sait qu'on est dans l'univers andersonien.
Alexandre Desplat, qu'on salue, qui était venu dans Culture Média, vivement qu'il revienne en France pour qu'il revienne dans l'émission. Merci beaucoup Stéphanie. Ce soir dans Musique sur Europe, beau casting.
Ouais, très beau casting. Brian Molko de Placebo qui revient après 8 ans d'absence avec un nouveau single qui s'appelle Beautiful Gems et Juliette Armanet. Oh, j'ai hâte.
Ah, oh, je l'adore.
Oh là là, je suis fan.
Ouais.
Donc ce soir, très belle émission dans Musique des 20h.
Merci Stéphanie Loire. Maintenant, Musique, Juliette Armanet, justement, quel bon titre, Le dernier jour du disco.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Camille Chamou, son spectacle Le Temps de Vivre, avec ce sous-titre, un exposé sur la finitude en 70 minutes pile, ça va très très vite, c'est au théâtre du Petit Saint-Martin, du mercredi au samedi à 21h. Il y a un moment assez extraordinaire, Camille Chamou, qu'on ne peut pas passer ici, dans lequel vous lisez une tribune de Virginie Despentes, l'écrivaine un peu punk, sulfureuse.
Tout à fait. Alors attention, j'invente une tribune de Virginie Despentes.
Voilà.
Je fais une sorte
question,
de pastiche.
Vous l'avez un peu réécrit ou est-ce qu'elle a écrit ça vraiment?
Non, en fait, elle a un ton quand même très spécifique dans toutes ses tribunes.
Elle envoie du
bois, comme
on dit.
Et donc j'ai essayé de choper le
pour
suc.
Qui ne la connaît pas, c'est elle qui a fait le livre Baise-moi.
Exactement.
Voilà.
Et Vernon-Subutex, que tout le monde a lu, je pense. Donc à un moment donné, dès que tu prenais le train, il y avait des gens qui lisaient Vernon-Subutex.
Ou vu la série.
Exactement, et vu la série. Et donc j'ai pastiché une tribune de Virginie Despentes, mais je précise bien que ça n'est pas un texte à elle, c'est un pastiche.
Ouais, alors c'est tout à votre honneur. Despentes dit tout, elle dit tout ce que t'as pensé en mieux avec des gros mots. Ouais. Et là, les Inrocks ont parlé de moments de théâtre, d'anthologie à ce propos, donc vraiment bravo. On l'a pas dit, c'est Camille Cotin qui a co-écrit avec vous, et c'est Vincent Dedienne qui a mis en scène.
Tout à fait.
C'est d'où la grande table. Pourquoi la grande table? Parce que c'était votre grande table de campagne du confinement.
Parce que Vincent me disait, on a vraiment envie qu'il y ait un bout de chez toi embarqué sur un tapis bobo au milieu d'un théâtre.
Voilà.
Et donc on a fait ça, un bout de chez moi.
Donc maintenant on sait comment c'est chez vous.
Voilà.
Vous étiez dans La Flamme, la série de Canal+, signée Jonathan Cohen, c'était une parodie du Bachelor.
Oui.
Pour qui ne l'a pas vu, redites qui était votre personnage, vous vous souvenez, Julia Vignali ou pas?
J'adore, et là il tourne la suite. Hein,
voilà, oui, mais attends, ça va être la question, mais d'abord qui était le personnage?
Le personnage
Chatalet,
on parle beaucoup de vous à la maison, on adore. Ouais. Dès qu'on se promène à poil, on pense à vous.
C'est pas vrai.
Attention, il y a un retour imminent de Chatalet, puisque je c'est ça.
Attends, je dois dire ce qui se passe dans le studio. Vignali, comme la maison, c'est Cadmerade, elle est en train de mimer des positions
levée,
sans culotte,
vraiment en montrant comment elle fait quand elle est
toute nue.
Si vous pensez choper des auditeurs avec ce genre de phrase, en faisant croire que je suis à poil,
non. Les auditeurs nous voient, on est sur Europe1.fr, je voulais dire pas là
non,
que
mais en
vous
tout
miniez.
Cas, elle arrive, elle revient parce que je vais tourner La Flamme 2 qui va s'appeler Le Flambeau.
Ouais.
Prochainement. Tous les jours où je ne joue pas au Petit Saint-Martin, je tourne La Flamme en Corse.
Mais alors, vrai ou faux, ce sera plus une parodie du Bachelor, mais de Koh-Lanta.
Ouais, c'est la seule chose qu'on peut dire, mais oui, c'est vrai, c'est exactement
voilà.
Ça.
Mais,
Chatalet, on a un petit peu envie de la voir à Koh-Lanta,
ah,
évidemment.
Tellement.
Voilà. Et quel autre projet ensuite? Est-ce qu'il y aura une tournée?
En fait, en même temps que je joue au Saint-Martin et que je vais en même temps, je diffracte le temps et je commence aussi une tournée en octobre et je vais jouer dans 50 villes en France entre octobre et avril.
Incroyable. Plus une série que vous écrivez, 8 épisodes, on n'a même pas le temps de le dire, il vous reste 12 secondes pour parler de votre série.
Rallye, une série sur les rallyes mondains dans les années 90 que j'écris avec Patrick Cassir, mon conjoint qui va la réaliser et c'est pour Canal+, hein, 8 fois 52 minutes.
Quelle idée, on m'a dit, il faut qu'à 54h30, tu donnes la parole à Marc-Antoine Lebray.
Et
c'est dans 3 secondes.
2,
bonjour.
1.
Bonjour Marc-Antoine Lebray. Vous voyez comment on maîtrise le temps?
Bravo,
hein, à la lumière de votre enseignement. Chaque jour, des personnalités s'invitent pour notre invité. Et aujourd'hui, Camille Chamou, un ancien président, est là. Et c'est... Non, c'est pas Giscard, c'est François Hollande.
Bonjour. Non, c'était juste pour dire à Camille Chamou que j'adore tout ce qu'elle fait. J'ai même vu tous ces spectacles. L'esprit de contradiction, né sous Giscard. D'ailleurs, heureusement que vous êtes né sous Giscard et pas sous Hollande, parce que vous seriez morte étouffée.
Nikos Allégas voulait vous dire un petit mot.
Oui, salut les loups, c'est Nikos. Salade, tomate, mets de l'oignon dans ma viande et pas l'inverse, Allégas. Alors comme ça, Camille, j'ai appris que tu es la petite fille de François Chamou, un illustre helléniste, pour ceux qui ne le savent pas. Les hellénistes sont ceux qui connaissent toute l'histoire de la Grèce, de comment Hercule a réussi ses 12 travaux, jusqu'à comment Nikos a réussi à présenter The Voice pendant 10 ans sans qu'on se souvienne d'un seul vainqueur.
C'est vrai en plus.
Bisous les loups.
Chose assez exceptionnelle, Camille Chamou, le pape en personne a tenu à venir ce matin.
Deus Sanctus, Urbi et Orbi, prenez ces repas. Ceci est mon corps. C'est Europe 1, oui. Il y a deux mots. Vous avez compris la blagounette, Felipe.
Bien sûr.
Signora Chamouni, il prépare aussi un one-man show. Il fait même partie du Chapelle Comedy Club. Et il vous respecte. Alors c'est molto difficile de monter seul sur des planches devant des gens. En tout cas, Jésus, ça lui a fait mal de monter sur les planches. Saint Maclou, priez pour lui.
Et puis un chanteur est là également qui voulait absolument vous rencontrer, Camille, c'est Gilbert Montagnier.
Oui, bonjour tout le monde. Comment ça va? Oh là là. Alors Camille Chamou, vraiment, alors là, comment ça me fait trop plaisir de te voir en vrai. En plus, avant, bah, quand je te voyais à la télé, je te confondais souvent avec Audrey Lamy. Voilà. Même une fois, voilà, j'ai demandé à ma femme, regarde à la télé, c'est Camille Chamou ou Audrey Lamy? Et là, ma femme, elle me répondait, mais non, Gilbert, c'est un poulet. Voilà. Tu regardes encore le four. Oh. Au revoir Audrey Lamy et Philippe Gildas.
Enfin, vous avez joué le rôle de Chatelleré, on l'a dit, dans la série La Flamme, et Franck Dubosc, lui aussi, souhaite vous en parler.
Hey, salut Camille, c'est Franck. Non, tu n'as pas rêvé. Dis-moi, j'ai un petit souci, enfin, un petit... Non, c'est à propos de ma kékette Jean-Claude dont je parle dans mon spectacle. Depuis qu'elle a entendu le nom de Chatelleré, Jean-Claude veut changer de nom. Ouais. Il veut s'appeler Zobaléré. Bon, dans l'absolu, ça ne me dérange pas. Par contre, Jean-Claude a été super mal reçu quand il a pointé sa tête à l'état civil. One again, a beast to fly. Ish, le bidish.
No comment. Merci beaucoup, Marc-Antoine Lebray. À demain. Merci d'avoir été avec nous, Camille Chamou.
Merci à vous.
C'est déjà fini. Vous avez vu à quelle vitesse ça passe. Nous, on se retrouve demain à 9h dans Culture Média. On sera avec le journaliste Rachid Embarki qui présente La Face Cachée 2 sur MC Story. Et demain soir, le numéro sera consacré à quelqu'un qui se cache beaucoup, Diams. Et puis le comédien Philippe Lelièvre pour son nouveau spectacle. Juste après le flash, je vais les retrouver. Julia Vignali et Mélanie Gomez, elles sont déjà dans ce studio. Bien fait pour vous, c'est l'émission. Le programme du jour, c'est quoi? C'est pas de la danse sans culotte, Julia.
Oh non, rien à... Enfin, quoique, on peut... Non, c'est pas ça. C'est comment détoxifier sa maison. Donc vous le faites dans la tenue que vous voulez, mais l'idée, c'est de ranger sa maison pour ranger sa tête. On va parler de tout ça.
Voilà, pour être bien chez soi et en soi, c'est beau, hein.
J'adore faire de la
stressée, moi.
Voilà. Moi aussi. Et le deuxième sujet,
acouphènes. On va parler des acouphènes. Comment en finir avec ces bourdonnements qui empêchent de nous écouter correctement, finalement. Donc on va soigner les acouphènes.
Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci Camille Chamou. Merci. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1.